9, on a déjà étudié 6 aspects de la vie d'Élie dans les dimanches précédents. Mais vous avez bien fait de venir aujourd'hui parce que si vous êtes là, c'est que Dieu a un mot pour le 7e, c'est-à-dire pour aujourd'hui. On a vu que Élie avait appris, parce qu'il était un homme courageux, il s'était levé dans sa génération pour s'opposer à Acab et Jézabel et il avait dû fuir pour cela. Il avait payé quelque part son courage en devant fuir dans un torrent à Kérit, où Dieu, avec par fidélité chaque jour, a pourvu à sa nourriture par des corbeaux qui lui livraient le petit déjeuner. Bon, peut-être discutable en qualité, mais bon, il y avait toujours du pain à manger, des morceaux de viande que Dieu permettait qu'il ait. Et jusqu'un jour où le torrent s'assèche, son petit torrent, le petit torrent frais, où Dieu lui enlève une des rares choses qui devait être une bénédiction dans sa vie. Et là, Élie est obligé d'accepter que Dieu le conduise dans un autre endroit qui s'appelle Sarepta, où là, une veuve, une pauvre veuve, une veuve qui est sur le point elle-même de mourir, mais Dieu a des méthodes étonnantes dans ta vie et dans ma vie. Quand tu regardes avec un peu de recul, tu dis c'est vrai, Dieu a des méthodes étonnantes et c'est une veuve qui va pourvoir aux besoins de Élie. Vous savez que c'est son pot de farine et d'huile ne s'arrêtera jamais. Puis, on a vu que Élie, dans la troisième étape, était sujet à beaucoup de critiques. Cette veuve a perdu son fils. Et son fils est décédé et elle a commencé à accuser Élie. Peut-être tu as été accusé à tort dans ta vie dans le passé. Et Élie a dû faire face à critiques et au rejet. Et là, il s'est appuyé sur Dieu. Il n'a pas cherché à argumenter. Il s'est mis en prière. Il a dit, Dieu, tu connais ma cause. Et Dieu a redonné vie à l'enfant. Et c'était merveilleux, cette étape, juste avant d'aller au Carmel. Alors le Carmel, c'était la quatrième et la plus grande étape de la vie d'Élie. Pendant des années, il s'est préparé à cela. Il s'est préparé pour être en face à face avec des prophètes de Baal, des prophètes en transe, en train de se lacérer avec des bâtons, des couteaux. Il y a du sang qui coule. C'est un moment de danse démoniaque et face à cet univers incroyable, Élie reste de marbre. Il connaît son Dieu et dit « Appelez, dites si Baal est Dieu que Baal se révèle, mais criez plus fort, il n'entend pas. » Il est resté fort parce qu'il est enraciné en Dieu. C'est son jour, c'est le moment où il faut être là. Et Élie est là au grand rendez-vous du Carmel. Et à la fin de cet après-midi incroyable, Dieu se révèle sur l'autel qu'a fait Élie et le feu tombe, consume. Et là, la gloire de l'Éternel et tout le peuple dit « C'est vrai, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Parce qu'un homme avait su se mettre debout dans sa génération, seul contre tous. Vient le jour où enfin Élie est reconnu et la gloire de Dieu descend sur l'autel. J'aime ces jours-là dans ma vie où finalement Dieu montre que j'avais raison. Vous aimez bien ça aussi. Quand vous avez été persécuté peut-être par vos familles, vos amis, vos proches, et puis qu'un jour quelqu'un vient vous dire « En fait, tu avais raison. Ton Dieu, c'est le vrai Dieu. » Alors là, regonflé à bloc, Élie a tellement d'énergie en lui qu'il va même faire un challenge, un pari, un défi avec Acab. Il dit « Je rentre plus vite que toi à Jizréel. » Et il a commencé à la course. Pardonnez-moi l'expression, il a grillé le char d'Acab. Parce qu'il a dit, Dieu maintenant envoie la pluie, tu vas t'embourber, alors prends un peu d'avance, parce que sinon je vais courir plus vite que toi. Et Élie est arrivé plus vite que Acab à Jizréel. Mais, après cette montagne, des fois dans notre vie, il y a des grandes vallées, et voire des déserts. Et c'est ce qui va arriver à Élie, puisque un petit mot, dis donc, elle n'a même pas eu besoin de le toucher. Une phrase de Jézabel a mis KO un des plus grands des hommes de Dieu de la Bible. Elle a dit, demain, à la même heure, t'es mort. Et ce champion, tout d'un coup, s'effondre. Et c'est ce que l'on avait lu dans 1 Roi 19. C'était ça la dernière fois. Il s'enfonce dans le désert. Et puis, on va dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des tabous, des fois, chez les chrétiens, chez les églises. Mais quand tu penses que tu vas mal, en tout cas, Élie, ce jour-là, elle est mal. Il s'enfonça dans le désert au verset 4. Après avoir marché une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé. Il demanda la mort. Il veut le suicide, hein ? C'est ça le mot, hein ? C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Il se coucha, s'endormit sous le genêt. Mais vous vous rappelez ce qui s'est passé ? Quelle bonté de Dieu ! Un ange qui vient, qui lui fait un petit gâteau. Un petit gâteau cuit sur les pierres. Lève-toi et mange. Il prend le gâteau, mais il se rendort. Alors son pasteur lui crie dessus. Non, 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 non. Non, quand c'est Dieu, Dieu est infiniment tendre et bon. Il lui refait deuxième occasion. Il lui dit, hey, l'ange de l'Éternel, on arrive aujourd'hui. C'est parti pour aujourd'hui au verset 7. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit, « Oh, j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » On va s'arrêter là pour l'instant. Seigneur, conduis cette méditation. Tu as une pensée pour nous, Seigneur, que nous puissions la saisir, ne pas passer à côté. Il y a un rendez-vous divin dans ce lieu et je veux le vivre. Pour quelqu'un qui entend ce message, Seigneur, nous voulons ne pas passer à côté de ce Dieu qui veut passer devant nous. Seigneur, parle à nos cœurs, touche nos cœurs. Donne-nous des paroles, Seigneur, pour notre vie. Seigneur, conduis ce message au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est mon engagement pour réussir un nouveau départ. Mon engagement pour réussir un nouveau départ. Ça vous est déjà arrivé, je suppose, de connaître des échecs. Alors ça peut être des échecs dans le domaine sentimental. Une fois qu'on a pris un départ et qu'on a dû s'arrêter alors que les autres étaient en train de se réjouir avec nous, qu'on avait annoncé que ça serait la personne de notre vie et puis ça s'arrête là brutalement, tout d'un coup vous vous sentez bien faible. Lorsque vous avez donné du temps pour une église, c'était votre église d'origine, c'était votre famille qui était, c'est peut-être votre pasteur, celui que vous avez connu, et tout d'un coup, vous changez d'église. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a un petit problème dans les jambes? Des fois, la tête veut y aller, mais c'est les jambes qui ne suivent plus. Ça vous est jamais arrivé de vouloir, après un déménagement, dire « Allez !» Moi, ça m'est arrivé des fois, me dire « Allez, Yvan, c'est reparti, hein, tu remets le feu comme avant !» Mais c'est comme s'il y a quelque chose en moi qui était plus lourd et qui ne repartait pas. Des fois, on sait qu'il faut repartir. On se dit, allez, c'est pas grave, tu vas t'en sortir. Tu as déjà connu un échec, c'est pas grave. Après avoir eu un échec scolaire, un jour, tu dis, mais est-ce que je suis prêt à refaire une année? Et puis tu dis, ben, je ne pensais pas que ça allait être si dur. Et Dieu est bon parce qu'il vient, et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, il vous donne de l'eau, il vous donne un bon gâteau. Mais vous ne repartez pas tout de suite. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Vous voyez, il a envie de repartir, Élie. Mais quand il se lève, il retombe. Alors l'ange revient et dit, repars. Moi, je sais que j'ai vécu des moments dans ma vie où après une période comme ça, avoir connu le meilleur moment, parce que le problème d'Élie, c'est il y a deux types de passés. Il y a des passés extrêmement positifs et il y a des passés extrêmement négatifs. Mais les deux, c'est difficile à oublier. Le problème d'Élie, c'est qu'il a été un champion. Et qu'est-ce que l'on fait après avoir gagné les JO? Quel est l'avenir? Vous pouvez faire quoi de mieux quand vous avez tout gagné? C'est très très difficile de retrouver une motivation. Très très difficile parce qu'on se dit, mais que faire de plus? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Faire le deuil du passé, c'est le premier point. Je voudrais vous parler de ce blocage qu'il y a dans ta tête lorsque tu veux repartir, mais il y a quelque chose de plus profond qui bloque. Quelque chose qui bloque. Faire le deuil du passé, c'est le premier point que je veux voir avec vous. Regardez ce que dit la parole de Dieu. L'ange de Dieu, verset 7, revint. Une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. Il se leva et mangea et but. Fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il y a quelque chose de bizarre dans ce texte. Il y a quelque chose de bizarre, je ne l'avais pas vu jusqu'à présent, j'espère que tu vas apprendre quelque chose ce matin d'étonnant. Moi, je prenais ça de façon très positive. Je me disais, c'est merveilleux, et Dieu lui a donné la force pour marcher 40 jours et 40 nuits. Alléluia! Alors c'est vrai que c'est bien. Mais vous voyez, après, si vous faites le calcul réel, vous regardez, vous prenez une carte et vous regardez d'où est-ce qu'il part et où est-ce qu'il va. D'accord? On voit qu'il y a un miracle de Dieu parce que c'était Il y avait des amphétamines du ciel dans le pain, on est d'accord, hein ? Il y avait mieux que du Red Bull. Il y avait quelque chose de Dieu qui pouvait durer 40 jours et 40 nuits. Si un jour vous trouvez ça quelque part, vous êtes millionnaire. Mais vous voyez, il mange la nourriture de Dieu et il a la force pour 40 jours et 40 nuits. Et il va de son désert, le désert de Beersheba, puisque c'est là qu'on s'était quitté. Il va du désert de Beersheba jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et vous savez combien de kilomètres ça fait ? Ça fait 400 kilomètres. Alors c'est beaucoup 400 kilomètres. D'accord ? Mais maintenant, si vous divisez 400 kilomètres par 40 jours et 40 nuits, vous obtenez une moyenne d'avancement inférieure à 1 km/h. Le même Élie qui courait plus vite que le char d'Akab la semaine dernière dans le texte, il fait du 1 km/h. Alors vous voyez, il y a un miracle de Dieu que Dieu avait anticipé qu'il allait faire du 1 à l'heure. Et ça, c'est un miracle de Dieu. Parce que la providence de Dieu, c'est savoir qu'après avoir été KO, tu as du mal à redémarrer. Et Dieu n'attend pas de toi que tu puisses faire un 100 mètres dans les premiers. Tu viens de changer d'église, tu vas avoir envie de te repartir. Mais réalise que des fois, tes jambes, elles vont moins vite. Et c'est très très difficile à accepter lorsqu'on a été capable de courir aussi vite pour Dieu. De dire, mais c'est nul, comment je fais du 1 km/h ? Avant, j'avais un temps spirituel avec Dieu énorme le matin. J'étais capable de passer de la louange dans les CD, de louer Dieu. Et maintenant, je ne suis plus là, Seigneur. Il y a peut-être quelqu'un qui va, avant, il allait à toutes les réunions, il était motivé pour Dieu. Et là, il se dit, mais Seigneur, si je réalise, j'ai été quelqu'un. Et quand tu parles à tes enfants ou quand tu parles à des... Tu dis, mais tu sais ce qu'il faut leur dire. Tu es capable de leur expliquer ce que ça veut dire d'être un champion pour Dieu. Mais eux, s'ils te demandent, et toi, c'est quoi ton temps avec Dieu aujourd'hui ? C'est pas terrible. Et Élie fait du 1 km/h et Dieu le bénit quand même. Vous savez pourquoi il fait du 1 km/h ? Je crois que c'est pas qu'une question de jambes, c'est une question dans la tête. Élie, son problème, c'est qu'il refait le match en permanence. Et tu as le même problème. C'est qu'il est, pour passer autant de temps dans le désert, il y a deux façons. Soit il se perd physiquement, soit il se perd dans sa tête. Et ça m'étonne que quelqu'un qui a l'habitude du désert comme Élie se perde physiquement. Parce que c'est un professionnel des déserts. Alors ce que ça veut dire, c'est que sa tête ne réagit pas super bien. C'est-à-dire qu'il est en train de penser, il est en train de penser à ce qui s'est passé au Carmel, il est en train de se dire, Seigneur, après une telle victoire, comment ça se fait que je suis là ? Seigneur, après avoir vu ta gloire sur l'autel, comment tu permets que Jézabel me menace comme ça ? Seigneur, est-ce que tu n'as rien à faire de moi ? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié ? Est-ce qu'il y a encore un Dieu dans le ciel qui est le même qu'au Carmel ? Est-ce que Dieu t'était qu'au Carmel et qu'après tu n'existes plus ? Et Élie, je pense à ce moment-là, il est en train de refaire son histoire du passé. Je sais que ce matin, il y a peut-être une pensée de Dieu pour quelqu'un. Tu es tellement bloqué par l'échec de ton mariage ou quelque chose que tu as vécu, que tu dis, mais Seigneur, il n'y a plus le même Dieu qu'avant. Pour certains, vous avez passé des temps tellement extraordinaires avec Dieu que vivre l'après, c'est juste très, très dur. Je vous avais dit quelque chose que j'ai appris de T.D. Jakes. Il dit, faites un service funéraire de votre passé. Organisez votre deuil. Parce que vous voyez, si on est sans arrêt dans le passé, on vit dans la mort. Je sais que les choses que tu as vécues, qu'elles soient très belles ou très tristes, Dieu a permis que tu les vives. Mais Dieu ne veut pas que tu restes bloqué dans ton passé. Dieu accepte que tu aies des sentiments, il accepte que tu aies des émotions. Il est Dieu, il les a créés. Mais il y a un moment où Dieu te dit, écoute, le chemin, j'ai prévu un beau chemin. Il est tellement long. C'est-à-dire que Dieu a des belles choses encore devant. Vous comprenez ? Mais Élie, lui, il ne voit pas le chemin qui est devant, il voit tout ce qui s'est passé derrière. Et d'ailleurs, regardez ça. Ouh, c'est bon. Hein. Je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais moi j'y suis à fond dans ce texte parce qu'il y a des paroles de Dieu partout. Là-bas, il entra dans la grotte, il passa la nuit. L'Éternel lui adressa la parole en ces termes, « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Bon, il a fait 400 kilomètres, il a fini par réussir à y aller, et ça, c'est bien. Parce que, mine de rien, tu y es. Tu as peut-être pris ton temps, tu as fait du 1 km/h, mais tu y es. Et aujourd'hui, tu es là où Dieu te veut, et Dieu veut te parler. D'ailleurs, tu es là ce matin. Et tu as fait le voyage, et tu n'as pas fait le voyage pour rien, Élie, parce que Dieu va te parler. Maintenant, regardez quel est le premier réflexe de Élie lorsqu'il arrive à Horeb. Où est-ce qu'il va ? Il va dans une grotte. Alors je souris, en même temps je suis très triste pour lui. Parce que ça veut dire qu'encore une fois, il n'a pas fait son deuil du passé. Élie, c'est quelqu'un qui a passé 3 ans dans les grottes. C'est un professionnel de la grotte. Il a fait kérite, grotte le matin, grotte le midi, grotte le soir. Caverne numéro 1, caverne numéro 2. Il connaît toutes les cavernes de kérite. Parce que c'était un torrent où il y avait des grottes partout. Et quand il va dans la grotte, c'est qu'il dit « Ah, ça je connais !» Là, je sais où c'est. Ah, c'est une petite grotte comme chez moi avant. Mais si tu veux, Dieu n'a pas prévu pour toi que tu ailles à Horeb pour avoir une grotte. Tu aurais pu aller à Kérit dans ces cas-là et tu n'avais pas 400 km à faire. C'est dur de changer l'intérieur. On arrive à changer l'extérieur, mais c'est pour aller dans une autre grotte. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement ? Des fois, on dit « Seigneur, je veux changer !» Alors tu prends toutes tes forces, tu dis « Je déménage. Cette fois-ci, l'appartement à Vitry, c'est fini. » Je fais à Choisy. Je ne sais pas où tu vas aller. Enfin, tu mets l'endroit. Tu vas faire. Alors, tu vas d'une grotte à une autre. Mais si tu veux, le vrai changement, c'est plus profond que ça. Le vrai changement, c'est intérieur. Et des fois, on se dit, bon, si je change de conjoint, les choses vont changer. Mais tu ne vas rien changer du tout si c'est l'intérieur. Tu n'as pas fait une rencontre avec Dieu. Tu prendras un autre conjoint. Et d'ailleurs, les statistiques disent qu'un remariage a 2 fois plus de chances d'avoir un échec que le premier mariage. Donc, qu'est-ce que tu gagnes avec ça ? Si jamais tu ne changes pas l'intérieur, tu auras les mêmes résultats que passé. Et c'est très compliqué parce que beaucoup de personnes... C'est le cas au printemps, on dit « Allez, on va changer, allez, je décide. » Ou bien, vous savez, ces périodes en janvier, la 1er janvier, ou bien 1er septembre, on est tout motivé. « Allez, j'arrête de fumer, je change, etc. » Mais si tu ne changes pas l'intérieur, tu vas changer tout ce qui est extérieur. Tu vas avoir peut-être un nouvel look. Changer de look pour changer de vie, qu'ils disent. Ça marche un peu. Ça marche, mais vous voyez, ça ne dure qu'un temps. Hein. Tous ces changements extérieurs, c'est important parce que ça vous donne un coup de pouce, mais c'est rien qu'un coup de pouce. Ça ne peut pas vous aider à long terme, ça. C'est pour ça que quand on redémarre une histoire d'amour, si on n'a pas guéri de la première, les 15 premiers jours se passent bien. Et puis après, on retombe dans les mêmes travers qu'avant. Et comme on n'a pas guéri nos blessures, on est stressé, on est blessé, on commence à redevenir, à vivre mal, on s'est angoissé, il y a la peur qui revient, il y a la crainte, le manque de confiance. Et tout revient comme avant si jamais l'intérieur n'a pas changé. Élie, ce que tu as besoin, c'est une nouvelle rencontre avec Dieu, un tournant décisif. Je voudrais terminer ce premier point en disant quelque chose toutefois. Je pense que pourquoi Élie va dans une grotte aussi, c'est parce qu'il a peur de ce qui vient après. C'est parce qu'il a peur du chemin qui vient. Il en a pris tellement, excusez-moi l'expression, mais il a souffert tellement, il a vécu tellement d'émotions fortes et dures que il y a un petit côté où il dit « J'ai envie des vacances, Seigneur. J'ai besoin de souffler. J'ai besoin d'autre chose. » Et peut-être qu'il a même peur de ce que Dieu a prévu pour lui. Il fait pas forcément confiance au Seigneur, à mon avis, là-dessus. Vous savez, il y a des moments, les moments de transition, c'est ce que je vous avais quitté là-dessus en disant, les moments de transition sont les moments les plus difficiles à gérer de votre vie. Parce que vous savez d'où vous venez, mais vous ne savez pas où vous allez. Vous savez ce que vous perdez, mais vous ne savez pas forcément ce que vous allez trouver derrière. Et c'est ce que vit Élie. Et je pense qu'il y a un moment, on a tous une angoisse, mais tous, alors même les plus courageux. Il y en a pour qui ça coûte un peu moins, c'est ceux qui aiment bien l'aventure. Mais pour tous ceux qui ont besoin d'être en sécurité pour vous sentir bien quelque part, les moments de transition, c'est super dur. Regardez ce qui se passe. Notre vie est faite de transition. Toute notre vie. Il y a des étapes dans notre vie où Dieu dit « Ok, je t'amène d'un point A au point B. » À peine on arrive au point B que le Seigneur nous amène au point C. Tout, c'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie dans votre corps. Prenez le petit embryon, d'accord ? Le petit embryon. Vous savez que vous avez été un embryon un jour. Maintenant, voir quelques rides, on a du mal à l'imaginer, mais oui, vous avez été un embryon. J'ai été un embryon. Comment ça s'est passé? Est-ce que imaginez qu'on puisse faire l'enregistrement de ce que pense un embryon? Quand il est tout petit, le fœtus, là, il connaît qu'un monde. Toutes les journées, il est là. Dans la bulle de maman. Il ne sait même pas s'il comprend le concept de maman, mais il comprend le concept de bulle d'eau. Il comprend le concept que ben il a à manger correctement. Il mange, il boit, il tourne, il donne un coup pour pas qu'on l'oublie. Il retourne, il s'ennuie un petit peu, il vit un moment pas mal, parce que maman met la musique dehors, donc il se fait sa petite fête à lui, puis plus rien, il dort. Puis il fait 500 grammes, puis il fait 1 kilo. Puis maman commence à râler parce que maman a pris 11 kilos et le bébé lui en a pris déjà 3. Et dans le bide, là, tout d'un coup, ben, ce qui était un palace, ça devient un petit, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un moment, votre monde qui était gigantesque, il devient tout petit. Parce que pour faire une roulade arrière, lorsque vous faites 3,5 kg, ça devient quelque chose. Et là, vous vous dites, mince. Et la maman, elle est en train d'anticiper l'instant d'après. D'ailleurs, elle le vit soit bien, soit mal, ça dépend des mamans. Et puis vient le jour où vous passez de l'étape A à l'étape B, un monde que vous connaissez pas du tout. Personne n'a prévenu le fœtus, méfie-toi, tu vas sortir et tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire dehors. D'ailleurs, un jour, toi aussi, tu vas être papa, puis peut-être grand-père. Le fœtus, il ne connaît pas l'avenir. Il sort et puis ça se passe très très mal en général, parce que la première chose qu'il fait, c'est... C'est l'horreur. Pour passer du point 1 au point 2, c'est l'horreur. Maman, elle crie, maman, elle souffre, maman, elle pleure, maman, elle stresse. On met des produits pour que ça se passe mieux et encore, ça suffit pas. C'est l'horreur, il sort, Et tout d'un coup, il ouvre les yeux et il voit la lumière. Bienvenue dans l'étape d'après. Et c'est marrant parce que c'est pareil quand le petit bébé deviendra vieux. Qu'il aura atteint la fin de sa vie, pas dans la bulle de maman, mais dans la bulle de la terre, et que il va pleurer, il va avoir mal, il dit « je veux pas, je veux pas, je veux pas », et puis on va partir quand même, dans un autre tunnel. C'est pas le tunnel du ventre de maman, mais c'est un autre tunnel parce que la Bible dit qu'on est esprit, et que l'esprit est immortel, et que l'on part dans un autre tunnel. Et c'est étonnant parce que tous ceux qui ont fait des expériences de mort imminente vous disent qu'après le tunnel, il y a quoi? Oh, une lumière. Ça me fait penser au premier tunnel. Vous comprenez ça? C'est qu'il y a quelque chose de très très difficile à se dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? La preuve, c'est que quand vous imaginez la mort, pour certains, vous vivez déjà très très mal. C'est exactement pareil le problème dans votre vie. Il y a des étapes tellement fortes dans votre vie que c'est une forme de petite mort où vous dites, mais il y a quoi derrière, Seigneur? C'est ce que vit Élie. Il a un problème de positionnement, il a un triple problème. Parce que son corps, il est dans la grotte. Alors que Dieu le voulait dehors à l'air libre. Vous avez vu ce que Dieu lui a dit? Viens, sors d'ici, Élie. Mais le problème, c'est que quand on ne va pas bien, ou quand il a envie de se planquer, il a envie de se cacher, il a envie d'être isolé, il n'a pas envie d'aller au culte ce dimanche-là. Élie dit, écoute, je viens de marcher là 40 jours et 40 nuits, j'ai le droit à un peu de repos quand même. Et Dieu lui dit, sors, va pas dans ta grotte, va pas t'isoler. Tu vas te déprimer là-dedans. Tu vas vivre dans le passé, ça va te rappeler Kérit. Ce n'est pas là que je t'amène. Je n'ai pas fait faire tout ce kilomètre-là pour te ramener à Kérit. C'est parce que je veux te parler. Est-ce que tu entends Dieu qui veut te le dire ce matin? Je veux te toucher, je veux te parler à ton cœur. Physiquement, sors. Ça vous demande un effort d'être là, vous avez bien fait. C'est-à-dire que vous avez quitté votre grotte. Je ne sais pas si votre grotte, c'est une maison, un appartement ou quelque chose. Mais en tout cas, vous avez le mérite, vous êtes là. Son âme. Deuxième problème de positionnement. Physiquement, il est au mauvais endroit. Il est dans la grotte alors qu'il aurait dû être dehors. Son âme, le siège des sentiments, mauvais endroit. Il est dans le passé alors qu'il devrait être dans le présent. Et troisième problème, son esprit du coup. son esprit, il est déconnecté de Dieu. Parce que c'est son âme qui prend possession. Vous savez, l'esprit, c'est ce qui nous relie à Dieu. C'est tout ce qui nous fait qu'on a, on a quelque chose en nous qui loue Dieu, même dans les moments faciles, dans les moments difficiles. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, on dit « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et là, son esprit, il est complètement écrasé par l'excès d'émotion de son âme. Peut-être que certains vivent ça ce matin. Vous vivez tellement de choses fortes que c'est vos sentiments qui prennent tout, mais votre esprit n'est pas une question de sentiment. Je suis sauvé non pas parce que je le ressens, mais parce que c'est écrit dans le livre. Si un jour, si là maintenant Jésus revient et que je vais vers le ciel, c'est pas parce que je dis oh, « je sens que je suis sauvé ». Vous le ressentez pas, vous le savez. Celui qui croira, qui sera baptisé, c'est-à-dire qui sera engagé pour Dieu, sera sauvé. Alléluia. Mais seulement, comme c'est ton âme qui dirige tout, eh bien ton âme, elle stresse, donc tu stresses. Sors, tiens-toi sur la montagne. Il a peur de Dieu, c'est bizarre, Élie, t'as peur de Dieu. Vous savez que je me suis rendu compte que moi-même, dans ma vie, plus je vieillis, plus je connais Dieu, plus j'ai vu des choses extraordinaires de Dieu. Et bien, il m'arrive parfois, du coup, lorsque je me déconnecte un peu avec Dieu, de commencer à avoir peur de mon Père. Je suis le seul ici ou bien ça vous est déjà arrivé? À un moment où, quand vous allez devant Dieu, je ne sais pas si c'est une forme de culpabilité, quelque chose qui est... Vous dites, ah, je ne suis pas un super chrétien, je ne suis pas une super chrétienne. Peut-être c'est ce que vit Élie ce jour-là. Et quand Dieu passe, vous vous dites, ok Seigneur, mais il n'a pas forcément l'envie d'être face à face avec Dieu. Il a presque envie que Dieu lui parle de façon indirecte. Alors je termine avec le deuxième point ce matin, faire une expérience décisive avec Dieu, personnelle. Veux-tu entendre Dieu te parler? J'entends un oui, que Dieu t'écoute. Est-ce que tu veux entendre Dieu te parler? Est-ce que tu es prêt à sortir de ta grotte déjà? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je veux prendre un temps avec toi, au lieu de prendre un temps sur moi-même, à me m'auto-scanner, à... Alors, regarde, on termine ce texte. Sors et tiens-toi sur la montagne, verset 11, devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fondait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Si tu fais une expérience à Horeb avec Dieu comme Élie, tu connaîtras des nouvelles facettes de la puissance de Dieu. Est-ce que tu as envie de connaître des nouvelles facettes de la puissance de Dieu? Est-ce que tu as envie de vivre des nouvelles facettes, de découvrir des nouvelles choses sur Dieu? Ou bien tu dis, je connais tout, pasteur. Dieu cherche un homme, une femme qui a envie de voir sa gloire. Dieu est infiniment plus grand, plus puissant. Regardez, Élie, qu'est-ce qu'il a connu jusqu'à présent? Il a connu le Dieu qui envoie l'eau. Il a connu le Dieu qui a dit, je stoppe l'eau. Pendant des années, et que sur la parole de Dieu, Élie prie et dit, Éternel, maintenant envoie la pluie, et l'Éternel a envoyé la pluie. D'accord? Il a connu le Dieu de l'eau. Mais je voudrais te dire que Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'eau, il est le Dieu des quatre éléments. Vous connaissez les quatre éléments? L'eau, la terre, le vent, le feu. Regardez ce que fait Dieu, c'est incroyable! Il lui dit, mon petit bonhomme Élie, t'es mon champion, mais tu connais que un quart de ma puissance. Je vais te montrer ce que c'est. Dieu peut envoyer, il est dit dans un premier temps, l'Éternel envoya un vent si violent qu'il fracassait les rochers. Et Dieu n'était pas dans le vent. Dieu dit ça, c'est juste pour te montrer. Parce que tu es devenu tellement dur que Dieu doit prendre des moyens forts pour te faire comprendre qu'il est là. Il dit, tu connais l'eau, tu connais le vent. Est-ce que tu connais le Dieu qui peut bouger la terre? Et Dieu envoyait un tremblement de terre. Alors dans sa grotte, ça devait être quelque chose là. Heureusement qu'il n'y avait pas de lustre accroché. Hein. C'est l'avantage d'une grotte, il n'y a rien qui peut tomber normalement. Si, quelques pierres peut-être par-ci, par-là. Là, c'est les jambes qui tremblent autant, mais pas forcément à cause du tremblement de terre. Tellement vous avez peur. l'Éternel n'était pas dans le vent. Après cela, il y eut un feu et Dieu lui dit, je suis le Dieu qui maîtrise l'eau. Je suis le Dieu qui maîtrise le vent. Je suis le Dieu qui maîtrise la terre. Je suis le Dieu qui maîtrise le feu. T'es qui toi ? Ben moi Dieu, je suis juste Élie. Et t'es qui pour me donner des ordres ? Et t'es qui pour crier après moi en me râlant dessus ? Et t'es qui pour me dire, faire des chantages avec moi, pour me dire, Dieu, si tu ne me donnes pas ceci, cela, je pars, je te quitte. Tu es qui ? Tu es qui pour dire, mais Dieu, de toute manière, mon baptême, si tu ne m'as pas respecté ta part, ben moi, je ne respecterai pas la mienne non plus, et puis je vais aller me servir dans le monde avec d'autres choses, etc. Tu es qui pour dire ça ? Tu es en face de toi le Dieu qui fait bouger les montagnes, le Dieu qui fait bouger le vent, le Dieu qui peut faire bouger la mer. Réalise que tu n'es pas le centre du monde, mais qu'il y a un Dieu au centre du monde. Tu connaîtras des facettes de Dieu. Vous savez, parce que c'est étonnant, j'arrive à un dernier clin d'œil. Élie dit, je connais Elohim Tsebaot. C'est ça qu'il lui dit. L'Éternel des armées célestes. Mais je suis beaucoup plus que l'Éternel des armées, mon garçon. Je suis beaucoup plus que ça. Tu connais l'Éternel des armées, mais est-ce que tu connais l'Éternel qui est comme un père ? Et il est dit que Dieu va lui parler comment ? Comme une marche martiale avec des trompettes, des tambours et l'Éternel des armées ? Non, 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 non. Dieu va se révéler à lui. Regardez le caractère de Dieu. Lorsque tu vis une rencontre avec Dieu, tu vas connaître le caractère de Dieu. Et regardez ce que Dieu fait. Il dit, il y eut un bruissement doux et léger. J'ai regardé en hébreu le terme exact, c'est il y eut un silence subtil. Vous arrivez à parler avec le silence, vous ? Eh bien, en fait, c'est ce que va faire Dieu. C'est lui une voix et un silence subtil. Quand on sort d'un moment aussi difficile qu'Élie vient de vivre dans le désert, c'est là qu'on réalise combien Dieu est bon. Vous savez, lorsque tout va bien dans ta vie, tu réalises même pas la bonté de Dieu. Oh, si tu dis, merci Seigneur pour ce que tu m'as donné, amen. Mais tu vas commencer à parler de choses, tu vas parler de ta voiture, tu vas parler, merci Seigneur pour mon appartement, merci Seigneur pour ceci, cela. Alors que la bonté de Dieu, elle est beaucoup plus profonde que ça. La bonté de Dieu, elle descend jusqu'au bout de ton être. La bonté de Dieu, c'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu qui te garde chaque matin, c'est le Dieu qui te donne la respiration, c'est Dieu qui te donne le mouvement et l'aide. C'est ça la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est qu'il prépare chaque jour que tu as avant même qu'il n'existe, il sait exactement combien vont être les jours de ta vie. Il a prévu ton avant, ton après, il est l'alpha et l'oméga. Et la bonté de Dieu, c'est bien plus que les choses qu'il te donne. Et quelle patience. Parce que vous entendez, Élie, il fait comme moi. Hein. Faut croire qu'il n'a pas beaucoup de mots dans ses prières non plus. Hein. Qu'est-ce qu'il va dire ? Alors, on lit le verset 14, c'est la fin de ce texte. Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, Adonai Tsebaot. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes, je suis le seul qui reste en vie, et voilà qui cherche à me prendre la vie. » 1, 2, 3, c'est la troisième fois à la virgule près qu'il redit la même chose. Deuxième fois à la virgule près qu'il redit la même chose. Il n'a pas changé un mot. Il reprend les mêmes mots. Et Dieu lui dit, je t'ai déjà entendu là-dessus, tu te tais, tu m'écoutes. Non, Dieu va le laisser parler. Regardez la patience de Dieu. Dieu ne va pas brusquer Élie, il va lui laisser encore redire. Vous savez, cette phrase, à mon avis, il a bossé pendant 40 jours et 40 nuits. Alors il a envie de la placer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un conflit dans le couple. Vous êtes partis fâchés et chacun est parti de son côté. Et le lendemain matin, vous arrivez avec la super phrase que vous avez bossée toute la nuit. En disant là, clac, 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 les quatre points, elle est cassée. Et tu prends les mots, mais regardez la bonté de Dieu. Il ne va pas le couper. Hein. Il va dire, vas-y, redis-moi encore. Oui, alors, d'accord, tu es le seul parmi les... Le seul, d'accord, c'est toi le seul champion. Gloire à toi, Élie. J'écoute. Et Dieu ne va même pas le couper. Il a besoin beaucoup d'affection, cet Élie. Moi aussi, des fois, je suis un peu un gamin avec Dieu. J'ai besoin de vider mon sac, j'ai besoin que Dieu m'entende. Oh là, il y a beaucoup de femmes qui te feraient dire amen aussi à cela. Hein. Mais bon, bref. qui ont besoin d'être entendus, juste d'être entendus. Pas que votre mari vous donne la solution, juste qu'il vous écoute une bonne fois pour toutes. Et pour lui, ça devient très très dur au bout d'un moment, mais bon. Et il vide son sac et Dieu est patient, il le laisse jusqu'au bout parler. Vous savez pas quoi ? Mon papa dans le ciel n'est pas pressé. Alléluia. Mon papa dans le ciel n'est pas pressé. Moi, j'ai un fils aussi, des fois, et puis il me dit, oui, Ethan, tu vois, le train. Oui. Le train. Tu m'as déjà dit ça trois fois. Le train. Il n'a pas beaucoup de mots. T'as pas beaucoup de mots. Dieu va pas te couper. Dieu, il est là à côté, il te prend. Et moi, quand j'ai mon petit garçon, je dis oui. Et je fais comme si la troisième fois qu'il me parle de train, c'était la première. Et que je venais juste d'apprendre qu'il y a un train qui vient de passer. Vous comprenez ça? C'est pareil avec Dieu. Dieu est infiniment bon. C'est un père. Vous avez un papa extraordinaire dans le ciel. Il est capable non seulement d'écraser les rochers, mais il est capable de parler avec une douceur incroyable. On est prêt à louer ce père là dans le ciel? Est-ce que tu as envie de rencontrer Dieu? Parce que Élie, il a prévu des choses pour toi. Ma conclusion, c'est que Élie, Dieu va lui dire, écoute maintenant, écoute, écoute. L'Éternel lui dit, retourne sur tes pas, au travers du désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazael comme roi de Syrie, puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimsi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abemeoa, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée d'Azaël sera mis à mort par l'épée de Jéhu. Tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par l'épée d'Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont pas agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. Je voudrais te dire une chose, c'est que les temps de Dieu et les transitions, si tu ne les acceptes pas, tu les subiras. Alors ce matin, en conclusion, je voudrais te dire une chose. Si Dieu veut t'amener du point A au point B, assure-toi de bien faire ton deuil du point A. Et deuxième chose, si Dieu a prévu un point B, c'est qu'il a des choses nouvelles pour toi. Alors, si tu continues à vivre dans le passé, tu seras malheureux de ce que tu as été toute ta vie. Il y a un temps où Élie, tu as connu un moment où dans la géopolitique, le roi le plus fort était le roi d'Israël. Ben, c'est fini, maintenant ça sera le roi de Syrie. Alors, soit tu t'adaptes, soit tu pleures. D'accord ? Ah oui, mais je préférais. Tu t'adaptes ou tu pleures. Avant, il y avait un prophète qui s'appelait Élisée. Élie, je suis très content du travail que tu fais. Maintenant, tu vas former ton numéro 2. Oui, mais je ne veux pas vieillir. Tu vieillis, c'est tout. Oui, mais je préférais. Tu vieillis, c'est tout. Alors, soit tu le vis bien, soit tu le vis mal. À toi de choisir. Mais en tout cas, les plans de l'Éternel sont fixés. Ce n'est pas du tout que je te mets sur la touche parce que je considère que le meilleur formateur, c'est toi. C'est génial quand même. Dieu lui dit, le meilleur formateur pour le prophète d'après, c'est toi, Élie. Maintenant, est-ce qu'Élie va dire « Non, je boude parce que ce n'est pas moi ?» Ta vie, elle tourne. Dieu conduit l'avant, il conduit l'après. Et ta vie sur la terre, c'est qu'une étape de toute façon. Alors, soit tu t'adaptes à cette étape en disant « C'est une transition, je la vis le mieux possible pour Dieu et je me prépare à la vie d'après qui s'appelle le ciel et qui est extraordinaire. » Ou soit je vais pleurer sur la terre, je vais faire la tête à Dieu, mais de toute façon, je finirai au ciel quand même. Donc, autant se dire « Seigneur, tu connais les projets que tu as sur mon cœur, des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et une espérance. » Et là, dans Jérémie, il est dit, vous m'invoquerez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Vous avez envie de rencontrer Dieu, c'est ça que tu as besoin, parce que sinon le chemin est trop long pour toi. On va fermer les yeux ensemble. Alléluia. Seigneur. Je crois que Dieu t'a parlé quand même ce matin. Prends du temps avec Dieu. Pendant que les frères s'avancent sur la Sainte Seine, je voudrais qu'il y ait un moment de silence dans cette salle. Et Dieu dit à Élie, sors, je veux te parler. Commence à parler à Dieu. Peut-être commence à écouter Dieu. Seigneur, quels sont tes projets pour nous? Quels sont tes projets pour moi? Quelles sont les portes que tu veux fermer, les portes que tu veux ouvrir? Seigneur, montre-moi dans ma vie les choses qui me retiennent au passé et qui me bloquent aujourd'hui. Il y a des nostalgies que Dieu veut enlever dans ta vie parce qu'il a un présent pour toi. Élie, tu as demandé la pluie pour le peuple, mais toi-même, tu as besoin de la pluie de Dieu sur ta vie. Tu as besoin de l'eau de Dieu qui coule sur ta vie. Est-ce que tu as encore soif de Dieu? J'ai demandé à tout le monde de se mettre debout, si vous voulez bien. On va prendre ce chant qui dit « Mon âme a soif de toi ». Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi? Sauf si vous ne voulez pas que Dieu touche. Et comme tout le monde est debout, que ceux qui veulent prendre la Sainte Cène la prennent, que les autres qui ne se sont pas engagés avec Dieu, qui ne se sentent pas en règle avec Dieu, vous restez debout, mais vous la passez au voisin, à la voisine. Parce qu'on ne peut pas faire semblant avec Dieu. On peut faire semblant devant les autres, mais Dieu nous regarde, et peu importe ce que les autres pensent de nous, ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de toi. Alors on va crier à Dieu, parce que peut-être même tu ne vas pas prendre la Sainte Cène, tu ne t'es pas engagé dans les eaux du baptême, tu as pas, mais ce matin tu es touché par Dieu et tu as envie de crier à Dieu. Alors ce n'est pas la Sainte Cène qui va changer ton culte, c'est ta relation avec Dieu qui va changer ton culte. Et tu vas commencer à crier à ta place et tu vas prendre peut-être une décision pour l'avenir qui peut bouleverser ta vie. Et dans la mort, dans la nuit où le Seigneur fut livré, il a pris du pain, l'a brisé, rendu grâce, et puis l'a donné à ses disciples. Il dit, prenez ceci et mon corps qui est rompu pour vous. Il prit aussi de la coupe, le fruit de la vigne, après l'avoir distribué avec ses disciples, les meilleurs et les moins bons. Ils ont pris la coupe et dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez. Jusqu'à ce que je revienne, vous annoncez ma mort et ma résurrection. Alléluia! Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent s'engager avec Dieu? On va crier à Dieu, mon âme a soif de toi.
Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi.
Mon âme a soif.
Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire. Rafraîchis mon âme de toi, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier, viens inonder mon cœur. Mon âme a soif de toi,
mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens
Tu connais tout de nous. Tu sais quand on se lève, tu sais quand on s'assied. Tu connais nos pensées, les plus sombres parfois dans nos têtes. Et ce matin, tu nous as parlé, on te remercie pour cela. Maintenant, Seigneur, donne-nous de vivre l'étape d'après avec cette foi absolue en toi. Redonne des forces à celui qui est fatigué, à celle qui est épuisée ce matin. Seigneur, donne-nous la force de marcher jusqu'à ce que l'on relève le défi que tu mets devant nous. Le défi d'après. Seigneur, sois béni pour ce temps ce matin et que dans nos vies spirituelles, dans nos cultes personnels, ce soir, demain matin, on ait soif de toi. Sois passionné par toi parce que la plupart de ce que l'on vivra avec toi se vivra seul, comme Élie seul lorsqu'il est sorti. Seigneur, merci pour le culte en commun, mais merci pour nos temps spirituels seuls avec toi. Seigneur, alors que ce culte s'achève, Seigneur, je te demande, est-ce que ces cultes personnels soient vivifiés par toi au nom de Jésus? Amen.
Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi.
Dans nos ténèbres.
Dans nos ténèbres.